Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, nos invités reviennent sur un jour important de leur vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et aujourd'hui, je reçois Kerry James. Bonjour Kerry James.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varié, sur France Inter.
Kerry James, vous êtes rappeur, auteur, scénariste et co-réalisateur du film Banlieusard que l'on peut voir depuis quelques jours sur Netflix. Est-ce que ça va comme présentation, ça, pour commencer?
Oui, je crois que c'est assez complet.
Assez complet. Moi, alors, je voudrais rajouter une chose. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense, Kerry James, que vous êtes un homme à fleur de peau.
Ouais. Je dirais même à fleur de mots.
À fleur de mots, que vous êtes un homme engagé, politique, que vos mots sont politiques en tout cas.
Ouais, on peut dire ça. Pas politicien dans le sens, je vais pas être grossier, mais putassier du terme, mais dans le sens de celui qui participe à la vie de la cité, oui, on peut dire ça.
En tout cas, on a une heure devant nous, Kerry James. Vous avez choisi comme journée particulière le 21 avril 2012. Ce jour-là, Amine Bentounsi était abattu par un policier lors d'une course-poursuite à Noisy-le-Sec.
Hier soir, en Seine-Saint-Denis, un malfaiteur de 28 ans a été gravement blessé par la police. Son pronostic vital est engagé. Les policiers ont ouvert le feu pour riposter, assure-t-il, alors que l'homme soupçonné de vol à main armée les visait. Les faits se sont produits hier soir en plein centre-ville de Noisy-le-Sec.
Kerry James, voilà ce qu'on entendait le 22 avril à la radio. Est-ce que déjà cette archive vous fait réagir ?
Oui, elle me fait réagir parce que il y a eu maintenant deux procès et qui ont démontré que l'individu qui est présenté dans cette archive comme un malfaiteur, en réalité, ne visait pas les policiers et a été abattu par une balle dans le dos.
Kerry James, ce 21 avril ou ce 22 avril 2012, vous étiez où? Vous vous souvenez?
Je ne me souviens pas où j'étais, moi. Ce qui est sûr, c'est que moi, je n'étais pas dans un bureau de vote. Parce que j'avais déjà, à cette époque-là, le sentiment que voter n'avait plus vraiment d'utilité ou de conséquence. Mais je peux vous dire, moi, où était Amel Bentounsi, qui est la sœur d'Amine Bentounsi. Ce jour-là, elle a été votée. Et elle a voté pour François Hollande.
Alors, ce qu'il faut préciser, Kerry James, c'est que Amine Bentounsi a été abattu la veille du premier tour des élections présidentielles.
C'est ça. Et on lui tire dessus la veille vers 20h. Et il est mort quelques heures
après. À 5h du matin.
Voilà.
Qui était Amine Bentounsi? Parce que on l'a beaucoup, il y a eu beaucoup de qualificatifs. Caïd, multirécidiviste. Jamais on disait un jeune homme de 28 ans. Qui était-il?
Ben, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer personnellement. Mais je le connais à travers d'autres personnages avec lesquels j'ai grandi et que j'ai connu. Et donc, je dirais qu'Amine Bentounsi, c'est surtout un gosse de 13 ans qu'on a mis en prison, alors qu'il avait que 13 ans et qui est devenu le plus jeune détenu de France. Et je pense que ça l'a complètement bousillé.
C'est ça, c'est-à-dire que c'était un... Vous dites que c'est un pur produit de la cité?
Ouais, c'est un pur produit de la cité. La cité, c'est pas toujours dramatique quand on s'en sort.
Voilà.
Mais quand on s'en sort pas, ça l'est. Et, et il fait partie des gens qui ont été victimes des conditions sociales dans lesquelles on a dû évoluer.
Alors, il était en cavale hein, quand il a été abattu. Il avait eu une permission, il devait retourner en prison.
Et
en
il
cavale.
Est jamais revenu.
Il n'est jamais revenu en prison. Depuis juillet 2010, il était en cavale. Alors, le policier incriminé a tout de suite évoqué la légitime défense en disant qu'il était menacé par Amin Bentounsi. Mais il a quand même été mis en examen le 25 avril 2012, donc 4 jours après la mort de Amin Bentounsi. Il a été mis en examen pour homicide volontaire. Et alors tout de suite, des centaines de policiers en colère ont protesté devant le tribunal de Bobigny.
L'image était surréaliste hier soir. Des centaines de policiers se sont retrouvés bloqués par des CRS sur les Champs-Élysées. Des policiers furieux qui ont organisé une manifestation spontanée et bruyante avec leur voiture de fonction. L'un de leurs collègues a en effet été mis en examen pour homicide volontaire, ce qui est très rare.
Toute sirène hurlante, plusieurs centaines de policiers blanquent les Champs-Élysées. Une image inédite. Il est 22h hier soir. Leur manifestation à Paris est spontanée. Des policiers en colère. Ils viennent d'apprendre que l'un de leurs collègues a été mis en examen pour homicide volontaire.
C'est l'expression d'un ras-le-bol qui couve depuis longtemps dans un certain nombre de départements, dont la Seine-Saint-Denis, parce que nos collègues sont de plus en plus confrontés à des difficultés, à des actes de violence. Et je crois qu'il y a, parallèlement à ça, des décisions de justice qui sont totalement incomprises.
Hier soir, des CRS ont empêché les policiers d'accéder au ministère de l'Intérieur. Seule une délégation a été reçue tard dans la soirée.
Gary James, comment vous réagissez à cette archive-là encore ?
En fait, je suis toujours étonné de la façon dont le corps policier fait corps, justement, lorsque l'un d'entre eux commet un acte répréhensible par la loi. Et je compare des fois cette... prétendue solidarité, enfin une solidarité un peu mafieuse quoi, c'est-à-dire on supporte l'autre même quand on sait qu'il est injuste et qu'il a pris une vie injustement, et ça m'inquiète gravement, et je rêve d'un jour où il y aura des policiers assez courageux pour dénoncer ce qui ne va pas. Je ne dis pas que tout ne va pas, et je n'ai pas non plus une haine viscérale et naturelle de la police et de chaque policier. Même, je suis même assez aimé.
Par les policiers ?
Ouais, en général. Ouais.
Ils vous aiment bien ?
Ouais, en général, je suis même assez...
Parce que vous êtes conciliant, parce que vous discutez.
En fait, ceux qui connaissent ma musique se rendent compte de ce que j'essaie de faire, et que j'essaie... à ma manière d'améliorer le vivre ensemble, et ils s'en rendent compte. Et donc, il y a beaucoup de policiers qui écoutent ma musique, et j'en ai beaucoup rencontré. Des fois, je fais des selfies avec eux. Mais face à l'injustice, on peut pas rester insensible ou se taire, sinon on devient complice.
Alors, en 2012, Kerry James, vous sortiez un album, une compilation qui reprenait vos titres depuis vos débuts. Ouais. Vous réinterprétiez des chansons, et dans cet album-là, vous réinterprétiez celle-là.
On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants, banlieusard et fier de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend. Deux, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre. Deux, parce que la vie est un combat. Pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche, c'est un pour les miens. Arabe et noir pour la plupart, et pour mes babtous, les prolétaires et banlieusards. Le 2, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée, car à ce jour il y a deux France qui peut le nier. Et moi je suis de la deuxième France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous, mais j'ai d'autres projets, qu'ils retiennent ça. Je suis pas une victime, mais un soldat, regarde-moi. Je suis noir et fier de l'être. Je manie la langue de Molière. J'en maîtrise les lettres. Français parce que la France a colonisé mes ancêtres. Mais mon esprit est libre et mon Afrique n'a aucune dette. Je suis parti de loin, les pieds entravés. Le système ne m'a rien donné. J'ai dû le braver depuis la ligne de départ. Ils ont piégé ma course pendant que les keufs me coursaient. Eux investissaient en bourse. J'étais censé échouer, finir écroué, la peau trouée. Et si j'en parle, la gorge nouée, c'est que j'ai nagé dans des eaux profondes sans bouée. J'ai le ghetto tatoué dans la peau, je suis rebelle comme écoué. Mais l'espoir ne m'a jamais quitté. En attendant des jours meilleurs, j'ai résisté. Et je continue encore. Je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts. Je n'attends rien du système. Je suis un indépendant. J'aspire à être un gagnant dont les perdants. Parce qu'on vient de la banlieue. C'est vrai qu'on a grandi, non? Les yeux dans les bleus, mais des bleus dans les yeux. Pourquoi nous dans les ghettos? Eux à l'ENA, nous derrière les barreaux. Eux au Sénat, ils défendent leurs intérêts. Élu de nos problèmes, mais une question reste en suspens. Qu'a-t-on fait pour nous-mêmes? Qu'a-t-on fait pour protéger les nôtres des mêmes erreurs que les nôtres? Regarde ce que deviennent nos petits frères. D'abord, c'est l'échec scolaire, l'exclusion, donc la colère, la violence et les civières, la prison et le cimetière. On n'est pas condamné à l'échec. Pour nous, c'est dur, mais ça ne doit pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme, soyons armés. Car sans lui, nous sommes désarmés. Malgré les déceptions.
James, ce morceau fait 8 minutes.
Ouais.
Ouais.
Un morceau très important dans ma carrière, dans ma vie même.
Et je vous vois acquiescer en l'écoutant, comme si vous réécoutiez chacune de vos paroles et que vous étiez à nouveau d'accord avec ce que vous avez écrit.
Ouais, c'est exactement ça. Ils prennent une résonance particulière en fonction des moments.
Et là, en ce moment, quelle résonance est là, aujourd'hui, dans ce studio?
Ben là, avec tout ce qu'on vient d'évoquer, l'histoire d'Amin Bentounsi, en fait, ce morceau, c'est pour qu'il n'y ait plus d'Amin Bentounsi, en fait.
J'espère qu'on vous entendra. Je ne sais pas où, mais qu'on vous entendra.
France Inter, Zoé Varier, Une journée particulière.
Le 21 avril 2012, c'est la journée particulière de Kerry James. Ce jour-là, donc, Amin Bentounsi était abattu d'une balle dans le dos par un policier lors d'une course-poursuite à Noisy-le-Sec. Le lendemain, le premier tour de l'élection présidentielle place François Hollande en tête de scrutin, suivi par Nicolas Sarkozy. Le thème de la sécurité s'invite à nouveau dans la campagne présidentielle. Les policiers continuent, eux, de manifester. Et pendant ce temps-là, Amal Bentounsi, la sœur d'Amin, bat le pavé à Noisy-le-Sec, mégaphone à la main, à la recherche de témoins. Parce que depuis le début, Amal Bentounsi, la sœur, a des doutes. Elle a des doutes sur la version du policier.
Quand est-ce que vous avez commencé à douter de la version de la police?
Tout de suite, en fait, parce que je savais que mon frère était capable de beaucoup de choses, en fait. Mais ce que je savais, c'est qu'il serait incapable de tuer qui que ce soit. Et au départ, en fait, la version policière, vraiment, nous faisait croire que, en fait, si je m'en étais tenue à ça, c'est ça qui est fou, quoi. Si je m'en étais tenue à ça, c'est que, en fait, il n'y aurait rien eu, quoi. On n'aurait jamais su la vérité, comment ça s'était passé. Et la version policière, c'était, c'est un braqueur, le multirécidiviste, a été tué. Donc c'était ça. En fait, il faisait référence à son passé plutôt qu'à ce qui s'est passé sur le moment, en fait. Et ce qui s'est passé sur le moment, c'est qu'à ce moment-là, il ne braquait pas, en fait. Et il a pris la fuite parce qu'il était en cavale et qu'il ne voulait pas qu'on tombe sur lui, quoi. C'est ça, la raison. Et après, ils ont dit, qu'à un moment donné, il a braqué le policier, que... Mais c'était pas ça. Et la preuve en est, c'est que les témoins qu'on a réussi à avoir et tout, qui ont dit tous la même chose. À aucun moment, il a porté atteinte à la vie de ce policier.
Carrie James, c'était un extrait de l'émission LSD sur France Culture avec un portrait d'Amal. Vous êtes émue de l'entendre. Elle vous émeut, ouais. Cette femme. Vous l'aimez?
Ouais, je l'aime. C'est une sœur. Et c'est la sœur qu'on voudrait tous avoir. Et c'est la femme qu'on aimerait avoir à ses côtés, puisque c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout et qui ne vous laissera pas tomber. Et dès le début, elle a eu cette intuition qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et elle a organisé une manifestation le samedi qui a suivi l'annonce du décès d'Amine Bentounsi. Et elle a repris le parcours d'Amine, du
café où il était, le Celtic.
Je crois qu'il s'appelait le Celtic,
ouais,
c'est
ouais.
Ça. Jusqu'à l'endroit où il est tombé. Elle faisait des appels à témoins. Et là, beaucoup de gens se sont manifestés. Et je pense que si elle n'avait pas fait ça, le policier aurait été acquitté, tout simplement.
Alors, il a été pourtant acquitté.
Ouais.
Le premier procès en 2016.
Ouais.
Alors qu'elle a réussi à collecter 7 témoignages.
Ouais.
Qui disent tous la même chose et qui contredisent la version du policier. C'est-à-dire qu'il courait.
Ouais.
Et qu'il a été, il a été poursuivi et abattu de dos et qu'il n'était pas armé.
Ouais.
Le policier est acquitté en 2016.
Ouais, malgré ça, il est acquitté, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'affaires. Et là, il se passe quelque chose d'inhabituel. Le procureur fait appel. Comme quoi, il faut parfois relativiser et qu'on peut trouver des gens qui sont fidèles à leurs convictions partout, quoi, dans n'importe quel corps de métier et partout dans la société. Et ce procureur fait appel.
Il fait appel et du coup, il y aura un second procès qui est fait rarissime.
Ouais.
Et fait rarissime aussi.
Il est condamné.
En 2017, il est condamné.
Il est condamné, comme peut l'être un policier en France, c'est-à-dire que 5 ans de sursis. Il ne fera pas un jour de prison, évidemment, mais dans la lutte contre les violences policières, c'est inespéré.
C'est inespéré, et sans la bataille de Amal, de la sœur, ah, jamais...
Non, ça ne serait pas arrivé, puisque, vous savez, les parents qui sont issus de l'immigration, ils ont toujours cette... envie d'être discret, de pas se faire remarquer. Si elle avait écouté sa mère, l'affaire se serait arrêtée là, quoi.
Ouais, il ne se serait jamais porté partie civile.
Exactement.
Alors, Amal Bentounsi, elle est formidable parce que en plus de faire cette bataille, une fois que sa bataille à elle a été terminée, quand elle a compris, quand le policier a été condamné, elle s'est dit mais je peux pas m'arrêter là. Il faut maintenant que j'aide les familles des autres victimes de violences policières.
Voilà.
Elle a formé un collectif.
Qui s'appelle Urgence Police Assassine. Et quasiment tous les cas de violences policières qui sont arrivés après ça, elle a rencontré les familles, elle leur a fait partager son expérience personnelle, elle se déplace... voilà, c'est une boule d'énergie.
Ah, c'est une boule d'énergie. Et en mars 2015, elle organise une marche de la dignité contre le racisme.
Mm-hmm.
Et c'était 10 ans après la mort de Ziyad et Bouna. C'était aussi pour leur rendre hommage en leur mémoire. Mm-hmm. Et c'est à cette manifestation, je crois, Carrie James, que vous l'avez rencontrée.
Aujourd'hui, ça fait chaud au cœur qu'il y ait autant de monde dans la rue. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus de Colmar, Strasbourg, Marseille, Lille et toutes les autres villes et toutes les familles de victimes qui sont présentes aujourd'hui. J'avais envie de rendre hommage à tous nos morts. Je pense à Amadou Koumé, Wissam El Yamni, Laoussi Naitoungar, Nabil Maboul, Hossine Bourras, Lamine Dieng, Mamadou Mariga, Excusez-moi pour ceux que je ne citerai pas, puisque la liste est tellement longue. C'est tragique. Je voudrais juste vous rappeler les chiffres. Les chiffres des gens, des personnes qui meurent entre les mains de la police en France. C'est 15 morts par an. 15 morts, ça représente un mort tous les mois, tué entre les mains de la police.
Et nous marchons la tête haute.
Et nous marchons la tête haute.
Et nous réclamons la justice.
Et le respect, l'égalité. Et le respect, l'égalité.
C'est nous les femmes en première ligne.
C'est nous les femmes en première ligne.
Vous étiez là, vous étiez dans la manifestation, Kerry James, avec toutes ces filles, ces sœurs,
ouais,
comme vous dites, ces femmes en première ligne.
Mais c'est ultra vrai que dans les quartiers, celles qui portent les associations sont souvent des femmes.
Ouais.
Ouais. Des mères, des sœurs, et celles qui prennent à bras le corps le monde associatif dans nos quartiers.
Et qui tiennent aussi les petits frères, les grands frères, qui déconnent, elles sont là, quoi.
Elles sont là, elles se laissent pas faire, elles ont l'envie de changer les choses, et peut-être aussi la naïveté de croire que les choses peuvent changer.
Mais vous aussi, vous avez cette naïveté-là, Kerry James. C'est ce qui fait votre,
ouais,
votre douceur.
Mais ça fait ma douceur et ma force en même temps.
Ouais, c'est ça. Mais vous avez les deux. Ouais. Et vous croyez que les choses peuvent changer. Et même vous écrivez des chansons pour rendre hommage à ces femmes et à cette femme en disant, entre autres, nos sœurs sont belles et le courage qu'elles portent en elles.
Bah, c'est important qu'il existe dans le rap une chanson qui rende hommage à une femme qui sont souvent traités d'une manière qui convient pas dans le rap, même si je sais que la plupart des rappeurs qui écrivent ces chansons respectent la femme et qu'ils le font parce que c'est presque un business, quoi.
Ouais.
Mais on a tous, je pense, beaucoup d'amour pour ces femmes.
Amen a grandi dans la Hesse. À 2 ans, elle immigre du Maroc à la Thèse. Elle atterrit dans le 7-7, cité de la pierre collinée. Le ghetto français, c'est pas la jet set. Papa étage en nettoyage, maman femme de ménage. Amel devient adulte avant l'âge. C'est une femme dans un corps d'enfant. Quand on est pauvre, on n'est pas naïf longtemps. Seule, entourée de 4 frères, dans la misère, ça forge le caractère. C'est les années 80.
Amal, qui est une des chansons de votre dernier disque,
ouais.
Hein, vous lui rendez hommage. Alors, ça m'a beaucoup intéressée parce que cette première marche de la dignité contre le racisme qui a lieu en octobre 2015, où vous étiez, a été soutenue par Angela Davis.
Ouais.
Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Ouais. Elle a soutenu comment?
En fait, moi, je n'y suis pour rien. J'étais qu'un invité, mais elle l'a soutenu, je crois, par les mots. Elle a fait des messages. Elle a rendu possible qu'on utilise son nom pour cette manifestation.
Très important pour vous, très important pour le mouvement, parce que c'est une grande militante des droits civiques et des droits de l'homme. On a une archive assez formidable qui date de 1978 d'Angela Davis. Et je pense qu'elle va vous intéresser, Kerry James.
Le fait d'être noir a un rapport avec la fuite. Pour comprendre ça, il faut que vous compreniez ce qui, dans l'histoire de ce pays, a fait une Angela Davis. Si vous l'acceptez, je vais vous demander dans les minutes qui vont suivre de penser noir avec moi, d'être noir. Ne vous inquiétez pas, une fois cette affaire terminée, je vous laisserai redevenir ce que vous êtes. Je vous laisserai retourner à la sécurité de ce que vous êtes. Je vous demande seulement d'être noir et de penser noir pendant les quelques minutes qu'il va me falloir pour vous expliquer ce que cela signifie d'être noir dans ce pays.
Angela Davis, être noir en 1978 aux États-Unis, ça signifie quoi?
Ça signifie qu'on est toujours victime du racisme, victime de l'injustice. Et non seulement les Noirs, mais il y a des Puertoricains, des Asiatiques, des Indiens, des Mexicains. Et aussi, la situation des Blancs n'est pas très bien aujourd'hui. Et c'est cela, je crois, la raison pourquoi on essaye d'encourager le racisme. Parce que Je crois que nous sommes dans une situation maintenant où les blancs et les noirs et tous les autres gens de couleur peuvent s'unifier. Et ceux qui ont le pouvoir ne le veulent pas. Alors ils encouragent le racisme pour que nous nous battions entre nous et ne pouvons pas créer un mouvement unifié.
Kerry James.
Incroyable.
Incroyable.
On dirait qu'elle parle de la France d'aujourd'hui. Ça me bouleverse. En plus, c'est tellement simple et c'est tellement évident qu'on veut empêcher l'unification de la France qu'ils ont appelée la France périphérique, la France des Gilets jaunes, qui d'ailleurs ont été traités comme des Noirs et des Arabes hein, lorsqu'ils ont voulu se révolter. Des gens qui ont été amputés. Enfin, si on prend les faits et on vous dit que ça s'est passé en Russie ou que ça s'est passé en Arabie, on aurait eu tous les médias qui se seraient levés en parlant de liberté,
de droits de l'homme,
d'oppression. Oui. Alors que là, l'indignation, elle a été minime, hein, pour pas dire quasi inexistante.
Une journée particulière. Zoé Barrier sur France Inter.
Je voulais faire un film. Je l'ai fait, je n'ai pas attendu Canal Plus, je n'ai pas attendu le CNC. J'en avais marre de voir les mêmes s'emparer de nos récits. Alors j'ai écrit mon propre scénario des panneaux vides. Je suis pas resté les bras ballants, je n'ai compté que sur mon talent. Je suis pas un fils de, il n'y a que ma détermination qui est le bras long. J'ai dû en faire deux fois plus que ceux qui ont deux fois moins de talent que moi en France. C'est normal pour un Africain. Tu me demandes à qui est la faute. En ce qui me concerne, je suis pas venu au monde dans le but de bâtir les rêves d'un autre. Je porte mes victoires et mes échecs. Je suis pas un esclave, je n'ai pas l'état français pour maître.
Pourtant l'état français continue de vous la mettre. Et tu t'en sors peut-être, c'est que des miettes. Pour mieux faire croire que si t'as échoué, c'est que t'es bête. Parce que la pierre que le bâtisseur rejette finira dans la fenêtre. Un seul film de Kerry James, 200 fait par des bobos de merde. Wow, tu t'en es sorti tout seul. Tu vois ce que je veux dire, tout seul. Pauvreté, combien sont sous le seuil. Depuis la bonne idée de l'état de s'enrichir sur les immigrés. Je refourguais les quartiers où la classe moyenne se suit.
Mais compare ces quartiers à ce que nos parents ont fui. Le bois, la baie, c'est le luxe pour quelqu'un qui vient d'Haïti. Quand j'observe ceux qui ont plus, je me rappelle de ceux qui ont moins. D'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais vu maman se plaindre. Sais-tu d'où l'on vient? Ouais, je m'en suis sorti tout seul. T'as bien compris, tout seul, hein. Pauvreté sous le seuil, les banlieues ne sont pas les seuls. Campagne à l'abandon, la misère est aussi rurale. J'en connais des petits blancs pour qui la vie est brutale.
Les blancs souffrent aussi, merci, je voyais pas les news. La banlieue porte un gilet jaune depuis 20 ans, tout le monde s'en bat les couilles. La France est dans le déni, mélange d'ignorance et de mépris. Parle pas d'ethnie, j'ai des oncles qui croient que l'Afrique c'est un pays. Je connais les quartiers vus par ceux qui mettent pas les pieds. Quand parle à tous les repas, n'envisage même pas d'aller voir les faits. J'ai grandi dans, traîne pas avec ces gens, tu vas te faire agresser. Mythes et légendes à la télé, faut s'intégrer sans qu'on se mélange. Galère sans contre-exemple, l'avenir sera ton présent. Pas de colonie sans conséquence, racisme anti-blanc, tant de complaisance. Crois-moi, je connais cette France. Je dis pas que tout le monde est mauvais, je dis que peur et négligence rendent une population.
Bien sûr, racisme en France, à qui le dis-tu? J'ai écrit lettre à la République, toi, où étais-tu? On ne fait pas bouger les choses en dressant seulement des constats. Subir ou agir, je vais te le dire, cache-moi. La vie est une question de choix, ni de gauche ni de droite. Mais si nos frères ne trouvent pas de taf, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part monter leur propre boîte? T'observes le monde avec un strabisme, t'es naïf. Tu crois encore à SOS, racisme et au manif.
Je suis pas naïf, je suis trahi. Je crois plus qu'on m'a appris. L'égalité, la part. Ah oui, est-ce que c'est toi qui choisis? Monte ta boîte qui s'enrichit sur ton crédit. Rentre dans le système ou péris. Oublie tes rêves dans un hall de mairie. Tant qu'ils parleront d'élite, ils disent que tu peux t'en sortir si tu le mérites. Mais tu mérites de t'en sortir, c'est qu'une technique. L'État veut t'endormir et jouer les marchands de sommeil. Un seul modèle de réussite, le leur basé sur l'oseille. S'ils aident les jeunes, c'est à devenir des vieux comme eux. Tu peux toucher le jackpot, tu battras pas le casino à son propre jeu. Système en pyramide, l'argent monte, la merde reste en bas. Je dis pas que tout le monde est dans le complot, je dis que ça les dérange pas.
J'ai des frères qui sont partis. Je vois pas la tessie en rose car j'ai poussé parmi les sorties. J'ai vu des mecs remplis de vice fumer un type que leur mère considérait pourtant comme leur propre fils. Balle dans la tête, mort violente. Est-ce l'état qui appuie sur la détente?
Comme dans les quartiers nord, on finit par s'y faire. On n'a jamais eu besoin de l'État pour remplir nos cimetières.
Bavure policière, pas de filet de sécurité, contrôle d'identité à l'âge où tu sais pas quitter. Finir par glorifier des trucs peu glorieux. Grandir dans le feu, y'a plus d'obstacles, ils sont plus dangereux. Mets ta vie en jeu. Trafic de stupes à des fils de enfermés pour qui s'évade en soirée. T'es qu'un pion dans leur petit jeu. Des politiques, y'a que la gloire qui les motive. Comment croire le contraire quand les présidents sont des meufs du showbiz?
Dans le showbiz, combien de banlieusards millionnaires ont banni le mot solidarité de leur dictionnaire? De l'oseille, on en a pris, hein? Combien, combien d'entrepreneurs, combien de stars la banlieue a produit? Mais le succès les rend amnésiques. La peur de perdre ce qu'ils croient posséder, paraplégique. Combien, combien osent monter au créneau? Combien osent leur faire face quand ils nous salissent dans leurs journaux? À qui la faute? Je n'essaie pas de nier les problèmes. Je ne compte pas sur l'État, moi, je compte sur nous-mêmes. À qui la faute? Cette question appartient au passé. Je n'ai qu'une interrogation, moi. Qu'est-ce qu'on fait?
Kery James, cette chanson fait partie de votre dernier album avec Aurel San. Vous l'avez écrit ensemble?
C'est ça, on a écrit ensemble et ça nous a demandé beaucoup de temps. On a fait au moins 3 séances de studio, sans compter le fait qu'il est venu voir la pièce déjà, qui abordait le même thème.
Alors votre pièce s'appelle « À vif », c'est une pièce que vous avez jouée entre autres au Rond-Point.
C'est ça.
Dans laquelle vous posiez la question de qui était responsable de la situation des banlieues en France.
Voilà. En fait, la pièce est tirée du scénario du film « Banlieusard », mais la pièce ne mettait en scène que le concours d'éloquence, donc entre deux élèves avocats, sur la question de la responsabilité de l'État dans la situation des banlieues en France. Et moi, je défendais le non.
C'est-à-dire l'État n'est pas responsable.
L'État n'est pas responsable de la situation actuelle des banlieues en France. Et le comédien qui me faisait face, qui s'appelle Yannick Landrin, lui fustigeait l'État et accusait l'État d'être responsable. Et donc on a repris ce concept avec Aurel San, de joute verbale.
Ouais.
Lui accuse l'État, moi je vais pas dire que je défends l'État, mais disons je défends la responsabilisation des individus par eux-mêmes, de chacun. Et voilà, et c'était un travail d'écriture assez colossal. Ouais.
Ça m'étonne pas. Et c'est cette question que vous posez encore et que vous reposez dans votre film « Banlieusard », donc on peut voir sur Netflix, à travers à nouveau un concours d'éloquence, mais pas seulement.
Bonsoir à tous. Je vous rappelle le sujet de cette finale. L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France? Pour l'affirmative, Madame Crèvecoeur. Pour la négative, Monsieur Traoré. Vous avez la parole. Émancipation. Émancipation. Mon discours sera celui de l'émancipation et de la responsabilisation. Son discours, très certainement celui de la victimisation.
En France, il me semble que depuis le 21 septembre 1792, la royauté a été abolie. Aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, nos gouvernants, qui sont appelés l'État, dans l'énoncé de la question qui nous est posée, ne se retrouvent pas à ces postes de responsabilité malgré eux. Ces boulimiques de la responsabilité vont même jusqu'à cumuler les mandats. Et en cumulant les mandats, qu'accumulent-ils si ce n'est des... Permettez-moi de mentionner deux citations, Maître Souleyman,
maître,
romancier.
Maître, je n'en demandais pas tant. Je ne suis qu'élève avocat. En revanche, il me sera difficile d'appeler cet individu maître. Pas à cause du passé douloureux de mes ancêtres que les siens ont fait esclaves pendant plus de 4 siècles. S'il m'est difficile de l'appeler maître, c'est à cause de la médiocrité lamentable de son plaidoyer. Ennuyant, redondant, et au final si peu convaincant. Mais bon, je vous laisse le découvrir par vous-même.
Mais quelle déception! Mais quelle déception pour moi d'apprendre que mon modèle, le grand maître Souleyman, pardon, que dis-je, Souleyman le grand, trouve mon plaidoyer ennuyant, redondant et peu convaincant. Eh bien, je n'ai pas peur de vous le dire, moi, grand maître Souleyman. Moi, je vous trouve captivant, innovant, pertinent, intelligent.
Merci.
Et tellement d'autres adjectifs en « en ».
Kerry James, c'est vous qui avez écrit ce texte.
Ouais, le scénario et les plaidoiries également.
Vous vous éclatez à ça, vous aimez ça, quoi.
En fait, le fil conducteur de ma carrière et de ma vie, c'est l'écriture.
Ouais.
J'ai joué, par exemple, dans le film, j'ai interprété le rôle du grand frère, mais j'aurais pu ne pas le faire. Mais par contre, m'empêcher d'écrire, ça, c'est très compliqué.
Ouais, vous écrivez depuis très longtemps, mais là, particulièrement sur cette idée de la responsabilité ou pas de l'État, ça vous travaille, parce que vous pensez qu'il ne faudrait jamais arrêter de redire que chacun est aussi responsable de sa vie et que ce n'est pas possible que la misère ou le racisme soit un prétexte.
C'est ce que je dis, c'est ce que je dis dans ma musique depuis 20 ans maintenant déjà. Et en fait, j'ai une position qui est la plus difficile à tenir, c'est-à-dire c'est la position du juste milieu.
C'est ça.
C'est souvent la position la plus difficile à tenir. Alors les gens voudraient que vous soyez soit un accusateur borné du système entre guillemets, ou alors que vous soyez de ceux qui accusent les habitants des quartiers d'être dans la victimisation. Et en fait, quelque part entre les deux, je crois qu'il y a une position qui est juste, et c'est celle du film.
Et c'est celle que vous tenez, vous, dans la vie, c'est-à-dire
exactement.
Pas de pleurnicherie,
c'est ça,
pas de victimisation,
mais on dénonce les injustices. Comme... je crois qu'on peut faire les deux.
On dénonce et on se bat, on y
et
va.
Et on se bat, bien sûr. On ne fait pas que dénoncer, c'est pour ça par exemple que j'ai fait une association qui fait du soutien scolaire et du financement d'études supérieures, parce que j'estime que les études restent le moyen le plus sûr pour un jeune qui a grandi dans la précarité de changer de classe sociale.
Alors votre association, elle s'appelle ACES, pour apprendre, comprendre, entreprendre et servir. Et moi je me demandais ce que c'était que se servir. Servir quoi ?
Servir les autres. Parce que je crois que servir les autres, c'est se servir soi-même. Il y a un sage qui a dit « Celui qui est au service des autres est en réalité leur maître. »
Donc vous, c'est ce que vous faites.
C'est
servez,
ce que j'essaie de faire.
Ouais. Vous donnez de l'argent, vous donnez une partie de vos recettes, de vos concerts pour cette association. Et le discours que vous leur tenez, c'est « On a besoin de vous, on a besoin d'avocats, on a besoin de médecins, on a besoin de gens pour défendre nos droits. Allez-y. »
Exactement. On ne peut pas tous être footballeurs, acteurs et chanteurs. La réussite, entre guillemets, la réussite sociale ou plutôt ou matérielle dans les quartiers ne peut pas se résumer à ces métiers qui doivent rester des métiers d'exception. Pour changer les choses dans le fond, on a besoin d'avocats, de médecins, de... voilà.
Alors, vous parliez de l'écriture, Kerry James. Vous disiez l'importance de l'écriture dans votre vie. Et c'est là-dessus, maintenant, que je voudrais qu'on revienne. Vous avez écrit cette pièce de théâtre, vous avez écrit ce film. Et en préparant l'émission, j'ai compris qu'en fait, vous étiez une sorte d'enfant prodige, que vous avez commencé à écrire et à chanter, à rapper quand vous étiez tout minot. J'ai vu des images de vous avec des grosses joues rondes.
Ouais.
Vous êtes à croquer, quoi.
Ouais, j'ai commencé... très très tôt, et j'ai compris il y a peu, je vous le dis parce que je me sens bien, que ça vient de mon père en fait.
Ah.
Ouais. En fait, mon père est quelqu'un de l'écriture. Quand mon père voulait nous écrire quelque chose, nous dire quelque chose, il l'écrivait. Jamais mon père ne m'a assis dans une pièce et a discuté avec moi. S'il avait quelque chose à me dire, il m'écrivait une lettre. Et donc je pense que ça vient de lui. Et même déjà au pays, en Haïti, mon père écrivait pour les gens. C'est pas un grand écrivain parce qu'il a pas eu les moyens. Mais je pense que en lui, il avait ça.
C'est-à-dire que pour lui, déjà, l'écrit avait un caractère sacré, peut-être même.
Très tôt, il m'a initié à l'écriture, il m'a offert des bouquins sur l'histoire d'Haïti, sur Toussaint l'Ouverture.
Ah oui.
Et donc même le côté un peu révolutionnaire, je pense que c'est lui qui l'a déposé en moi.
Alors peut-être qu'on va mieux comprendre encore les paroles de cette première chanson que vous avez enregistrée quand vous aviez 15 ans.
Oui.
même dans notre domaine, pourtant ce n'est pas si facile. Des gosses crèvent de faim et vivent dans les bidonvilles. Comment peut-on t'accepter dans cette société? C'est une inégalité, une telle cruauté. Des gosses délaissés dans les routes de tous les états, poussés à voler et pourchassés comme des rats. Pourtant ils ne le sont pas, non, ce sont des êtres intelligents. La vie ne leur a pas offert la richesse, c'est l'argent. L'argent, le fric, la thune, le pognon. C'est avec ça qu'on est bien vu dans le monde où nous vivons. Mais les enfants dont je vous parle n'ont pas de chance. Ils souffrent en silence, leur espérance n'est pas immense. Ils font comprendre que leur vie n'est pas la vie idéale. Trouvez-vous ça normal que leur vie soit brutale?
Vous vous écoutez
Bah, ça fait froid dans le dos quand même.
Pourquoi?
Parce que c'est effrayant. Parce que j'avais 14 ans quand j'ai écrit ça. Et je dis, enfin à un moment il est dit dans la chanson, comment peut-on t'accepter dans cette société synonyme d'égalité
qui prétend,
une telle,
ouais,
cruauté,
ouais.
C'est inquiétant. Enfin, j'ai écrit dans le texte justement sur Hamel, quand on est pauvre, on n'est pas naïf longtemps.
On n'est pas naïf longtemps, nous on n'a pas forcément ce talent-là pour écrire.
Ouais, après,
mais
j'y suis pour rien. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le talent et le don, c'est quelque chose qui se travaille. Et que plus on écrit, plus on se force à écrire même quand on n'est pas inspiré, mieux on écrit.
Mais alors, moi la question que je me posais, c'est que depuis que vous êtes minot, vous êtes là avec votre bic à écrire sur un cahier? Ce qui vous traverse la tête?
Je l'ai pas fait tous les jours, mais j'aurais dû le faire. D'ailleurs, c'est ce que m'avait conseillé une prof de français, avec qui pourtant j'avais eu une grosse altercation un jour. Mais un jour, elle m'a fait venir à la fin d'un cours,
ouais.
Et elle m'a dit quand tu écris, il y a une sorte de musicalité dans ton écriture. Quand je rendais des rédactions qui étaient toujours trop longues, tu devrais écrire chaque jour de ta vie ce qui se passe. Et ça m'est resté quelque part dans un coin de ma tête.
Et vous avez le goût de la langue, vous aimez la langue, vous aimez les mots?
Oui, j'adore les mots. J'aime entendre quelqu'un parler le français magnifiquement bien. C'est vraiment un plaisir. Même s'il dit des choses dans le fond qui sont contraires à ce que je pense, mais j'arrive à faire la distinction et de dire mais quelle maîtrise de la langue. Et ça, c'est pour ça que l'une de mes pièces préférées, c'est Cyrano de Bergerac en réalité.
Ah oui, oh, ouais. Bah dites donc, je savais pas,
ouais.
Ah, c'est dommage, si j'avais su on aurait écouté Cyrano. Alors il y a un homme, un chanteur, un homme assez extraordinaire, auteur-interprète, qui a reconnu en vous un poète.
D'abord, disons que la chanson française a à l'heure actuelle un avantage fantastique. C'est que les rappeurs et les slameurs écrivent merveilleusement notre langue. Et je dois... On peut les applaudir. On pense toujours que cette jeunesse ne connaît pas la chanson. Au contraire, elle la connaît très très bien. Mais elle veut s'exprimer d'une manière différente. Et je trouve qu'il y a une floraison d'auteurs et de compositeurs et d'interprètes, rappeurs ou slameurs, qui sont formidables aujourd'hui. Et... Je dois dire que le leader de tout cela, celui qui émerge en tête, c'est Kerry James. Et vous allez l'entendre, écoutez surtout attentivement les paroles, vous allez voir comment c'est bien écrit, comment c'est beau et comment c'est français.
Charles Aznavour, c'était en 2008 dans une émission de Michel Drucker qui s'appelait Tenue de soirée. Et comme c'est français, il dit, parce que Charles, ouais, Aznavour, l'Arménien, reconnaît en vous.
Ouais.
Le travail de cette langue française.
Ouais, c'est incroyable. Vous savez, dans ma carrière, rien ne m'est arrivé sans que j'aie travaillé pour ça, sans qu'il fallait toujours que j'aille chercher des choses, tout ça. Et ça, c'est le seul truc qui m'est arrivé dans ma carrière où je me dis, ça aurait pu ne pas arriver, quoi. Que Charles Aznavour reconnaisse publiquement un talent d'écriture chez moi. Vraiment, c'est le seul truc que je peux dire que...
Cadeau
ouais,
de la
voilà.
Vie.
Voilà.
C'est le cadeau, c'est ça?
Incroyable. C'est quelque chose que j'ai pas été chercher vraiment, quoi.
Vous êtes pas battu.
Ouais, pour ça, ouais. Ouais.
Bon, ça veut dire des choses, hein.
Thank you.
that you come from, yeah.
Zoé Varié sur France Inter.
C'était Brittany Howard, playlist de France Inter. Ça vous plaît?
Ouais, ça m'a parlé.
Ça vous a parlé. Bon. Je vais revenir rapidement sur un événement vraiment qui me semble important de l'année 2012, l'année de votre journée particulière, Kerry James. En 2012, la guerre en Syrie domine l'actualité. La ouais. révolution a commencé un an avant. Barack Obama est réélu. Et en août 2012, il déclare que l'utilisation d'armes chimiques constituerait une ligne rouge à ne pas franchir, sous peine, je le cite, d'énormes conséquences. Et moi, je retiens ça comme événement de cette année-là.
En fait, j'aimerais avoir une pensée pour toutes les victimes de ces guerres qui sont des jeux de pouvoir, de gens qui n'ont pas de compassion envers la vie humaine. Et moi, je pense à tous ces gens-là, tous ces innocents, ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces populations qui sont déplacées pour des questions de géopolitique.
Alors, plus léger, Kerry James, en 2012, on dansait sur Gangnam Style, on chantait « Tue-tête Rihanna » et on s'étonnait de découvrir que Shakira était fan de Francis Cabrel.
Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de cette nuit. Je
l'ai incroyable.
Nourri. Vous ne connaissiez pas?
Ah non, je savais pas.
Elle la chante à moitié en espagnol et en français.
Punaise. Incroyable. C'est quelqu'un, Francis Cabrel, quand même.
Ouais, c'est ce que j'allais vous demander.
C'est quelqu'un.
Vous la connaissez, cette chanson?
Oui, oui, je la connais, bien sûr.
Non, mais vous la connaissez par cœur?
Non, pas par cœur.
C'est moi, je la connais par cœur.
Ah, c'est vrai?
Ouais, quasi.
Ah, non. Ouais, moi, je connais plutôt « Hier encore » de Charles Aznavour.
Ah.
Mais c'est la preuve que c'est un grand artiste. Que Rihanna, au bout du monde, arrive à reconnaître qu'il y a quelque chose dans sa musique. C'est quelqu'un.
C'est quelqu'un. En 2012, Kerry James, Omar Sy recevait le César du meilleur acteur pour son rôle dans le film Intouchable.
Je colle bien. Il va plus bien du tout. Ouais, je suis tôt.
C'est un arbre. Un arbre qui chante. C'est de l'allemand. Quoi, je suis...
C'est en allemand.
C'est de l'allemand en plus. Vous êtes taré.
Oh, la galère. C'est-à-dire combien de temps?
4 heures.
Oh, putain.
Il vous fait rire?
Ouais, incroyable, un film incroyable, un scénario incroyable. Et Omar Sy, qui est l'un des premiers à m'avoir suggéré d'écrire des scénarios de long métrage.
De films?
Ouais, en 2008, il m'avait dit ça.
Mais alors, justement, parce que Intouchable, c'est aussi une certaine représentation de la banlieue. Et je me demandais ce que vous en pensiez, parce que si vous faites votre film banlieusard, c'est aussi parce que vous en avez marre que ce soit des gens qui connaissent rien à la banlieue qui fassent des films dessus. Et là, sur Intouchable, vous étiez d'accord avec ce qu'on...
Je me suis pas senti trahi par le personnage d'Omar Sy, qui est un personnage qu'on connaît en banlieue, qui existe en banlieue. Et puis, je pense que ils ont essayé quand même de faire en sorte que les gens puissent se parler, se rapprocher, et ça a fonctionné.
Alors on a, c'est bientôt la fin de cette émission, on a un petit cadeau.
Allons-y.
Un petit cadeau avant de se quitter, ça parle de cinéma, ouais. Ça parle de banlieue, et ça date de 1961.
Longtemps, j'ai habité la banlieue. Mon premier souvenir est un souvenir de banlieue. Aux confins de ma mémoire, un train de banlieue passe, comme dans un film. La mémoire et les films se remplissent d'objets qu'on ne pourra jamais plus appréhender. La banlieue triste qui s'ennuie des fils grises sous la pluie chantait Piaf. La banlieue triste qui s'ennuie des fils grises sous la pluie. L'ennui est le principal agent d'érosion des paysages pauvres. Le voyageur pressé ignore les banlieues. Ces rues plus offertes aux barricades qu'aux défilés gardent au plus secret des beautés impénétrables.
L'ennui est le principal agent d'érosion des paysages de banlieue, c'est
ouais,
ce qu'il dit.
Ouais.
C'est très très fort, très puissant.
Et vous savez qui c'est? De non. Qui est ce film? De Maurice Pialat.
Ah, c'est fou.
En 1961. Vous et êtes donc... d'accord, l'ennui?
On a fait beaucoup de conneries parce qu'on s'ennuyait quand on était jeune.
Et c'est vrai que le paysage de la banlieue, c'est l'ennui.
Mais l'ennui aussi, moi, pour moi, je vois pas que le paysage, je vois aussi le manque d'emploi, le chômage, ça crée de l'ennui. Hein.
Vous savez comment il s'appelle ce film de Pialat?
Non.
L'amour existe.
Waouh. Magnifique, magnifique titre.
On se quitte là-dessus, Kerry James. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Alors, votre album, Je rappe encore, vient d'être réédité avec des titres inédits et des invités, comme Aurel San, Youssoupha, Lacrim et Soprano,
ouais,
c'est ça?
C'est ça.
Le film Banlieusard, dans lequel vous jouez et que vous avez co-réalisé avec Laila Sy, est visible sur Netflix.
Ouais.
Merci.
C'était très intéressant et j'espère revenir. Et cette fois-ci, on parlera de mon père, si vous voulez.
Avec plaisir.
Voilà.
C'était une journée particulière. Une émission préparée par Hugo Combe, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka, à la technique aujourd'hui Selim Gheribi. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster cette émission sur le site de France Inter. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.
C'était une journée particulière sur France Inter, une rediffusion de l'émission de Zoé Varier. L'ensemble des archives est disponible en podcast sur franceinter.fr.